Alors, qu'est-ce qui me lie à l'entreprise? Déjà, bonjour à tout le monde. Je suis Nicolas, je travaille pour les groupes de bigues universitaires en banlieue sud-ouest, banlieue parisienne sud-ouest. Et ce qui me lie à l'entreprise, c'est pas mal de choses. Déjà, mes études initiales, j'ai fait des études de management dans une école de commerce. J'ai travaillé pendant. Enfin, j'ai passé 7 ans en entreprise, si je compte tous les stages que j'ai faits et les 5 ans que j'ai passé en audit financier chez KPMG. Sinon, ce qui me vient à l'entreprise, c'est pas mal de lectures, pas mal de discussions avec pas mal de personnes qui travaillent en entreprise. Et aussi, surtout, c'est mon éducation, parce que j'ai reçu l'entreprise au biberon. Alors, j'ai reçu la Bible au biberon, mes parents étant chrétiens, mais avec la Bible, il y avait aussi l'entreprise. Mon père travaille en entreprise, est très passionné par ce milieu-là. Sa famille aussi, et quand il va dire des repas de famille, avec toute la famille de mon père, ça parle business en permanence. Donc voilà. Ça, c'est pourquoi l'entreprise, ça me parle et pourquoi j'aime bien en parler. Et donc, on vous propose de prendre un temps pour avoir un regard biblique sur le témoignage en entreprise. Alors, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, merci d'être venu aujourd'hui parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de réfléchir à comment être de bons ouvriers, de bons témoins. Et ça, je trouve ça très réjouissant. Réfléchir à ce que c'est être un témoin, c'est réfléchir à comment faire rayonner autour de nous cette relation que nous avons avec Dieu. Comment faire rayonner autour de nous ce plaisir que nous avons à l'aimer et à le connaître. Parce que ce qui se passe avant notre témoignage, sous quelque forme que ce soit, c'est notre relation avec Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Disait Jésus. Une fois que cela est dit, on peut commencer à parler du témoignage. Alors, Jésus a affirmé que tous les commandements de l'Ancien Testament sont résumés en deux règles de vie, deux principes à se rappeler tous les matins quand on se réveille. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réfléchir à comment être témoin en entreprise, c'est réfléchir à comment on peut vivre ce commandement radical. Parce que ce qui se passe en entreprise, c'est important pour Dieu. Et quitte à être un peu provocateur, c'est peut-être parfois presque plus important pour lui que ce que l'on fait le dimanche matin. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps au travail qu'à l'église. Sauf si au travail pour une église, bien entendu. La vie chrétienne, c'est pas simplement l'église et ou la famille. C'est chaque seconde de notre vie, y compris les 35, 40, 50, 60, 70 ou 80 heures que l'on passe au travail. Comme vous le savez sans doute, des entreprises comme il y en a aujourd'hui, à l'époque biblique, à l'époque des prophètes et des apôtres qui ont écrit la Bible, il n'y en avait pas. Mais parmi les principes qu'ils nous ont laissés, beaucoup s'appliquent à la vie en entreprise. Et l'idée dans les 43 prochaines minutes, c'est de regarder ce que la Bible nous dit, et lancer des pistes de réflexion et de discussion pour après, peut-être sur comment ça peut se vivre au jour le jour avec l'aide du Saint-Esprit. Alors tous les exemples que j'ai pris sont issus du monde de l'entreprise, mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas dans ce milieu, il y a pas mal de principes généraux que vous pouvez transposer assez facilement dans votre situation professionnelle. Alors j'ai structuré ce survol en quatre temps. Qui correspond aux paroles, aux comportements, aux relations et à la vision du monde. Donc il y a des recoupements bien entendu entre les quatre, et donc ça donne, on va réfléchir à comment parler en témoin, comment agir en témoin, comment relationner en témoin, et comment penser en témoin. Agir en témoin, parler en témoin, agir en témoin, relationner en témoin, penser en témoin. Et donc tout d'abord, parler en témoin. Alors, parler en témoin, c'est en général la première des choses qui nous vient à l'esprit quand on pense au témoignage. Parler. Quand on dit témoin au travail ou témoin en entreprise, c'est très bien, mais c'est vrai que la première question à se poser, c'est de qui ou de quoi nous voulons être témoins. En gros, il faut avoir des idées claires sur ce qu'on veut transmettre, ou plutôt sur qui l'on veut transmettre. Donc on va commencer par quelques petites considérations générales. Bibliquement parlant, être un témoin, c'est affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou expérimenté. Il y a pas mal une connotation juridique, l'idée de parler de manière objective de ce que l'on sait être vrai. Avant son ascension et son retour sur son trône céleste, Jésus avait missionné les apôtres de la manière suivante. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres ont été envoyés comme témoins de Jésus, un peu partout dans le monde, et nous qui ne l'avons pas vu physiquement, nous sommes témoins des témoins de Jésus, d'une certaine manière. Le monde, dans sa majorité, refuse Jésus. Le monde, comme système pécheur, lui fait un mauvais procès, comme on dit. Et ses témoins sont là pour parler de lui de manière objective. Lui qui est lui-même le témoin fidèle et véritable, comme nous le décrit l'Apocalypse. Il nous appelle à être toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous devant tous ceux qui nous en demandent raison et à le faire avec douceur et respect. Si on veut être un bon témoin, il faut bien connaître la personne dont on veut témoigner. Et que ce soit bien clair dans nos têtes, l'importance de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Mais ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre un évangile et de bien le lire. Travail préalable, pas forcément très long. Et pareil pour le message global de la Bible. Il y a un schéma dont vous avez peut-être entendu parler et que je trouve qui résume bien la vision d'ensemble de la Bible. C'est création, chute, rédemption, nouvelle création. Avec ça, vous avez à peu près la totalité de l'histoire biblique. Et ça permet d'avoir les idées claires, des fois que l'on se dit, bon, je sais pas trop quoi dire. Dieu a créé le monde bon, l'être humain s'est révolté contre Dieu avec toutes les conséquences que l'on connaît, et depuis, Dieu n'a pas arrêté de mettre en œuvre un plan de sauvetage et de réconciliation avec l'humanité, dont le point culminant étant Jésus. Et après, il fera disparaître le mal, le péché et la souffrance, et ceux qui auront accepté son offre de réconciliation passeront l'éternité dans une nouvelle création. Mais même quand on a les idées claires, comme ça, c'est vrai que bien souvent, on a peur de ne pas savoir quoi dire. Quoi répondre à ceux qui nous questionnent sur notre foi. Ça, nous pouvons avoir confiance en Dieu le Saint-Esprit pour nous aider. Et en plus, il y a une autre chose dont nous sommes témoins, c'est que nous sommes témoins de la puissance de transformation que l'Évangile a dans notre vie. Au-delà de, en même temps que parler de Jésus, parler du message biblique, nous pouvons parler aux autres des transformations que Jésus fait jour après jour en nous, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et on peut expliquer aussi ce que c'est qu'être chrétien au quotidien. Mais bon, malgré toute notre bonne volonté, en entreprise, il y a quelques petites choses qui font qu'on y réfléchit souvent à deux fois avant de parler de l'Évangile. Pour commencer, votre entreprise ne vous paye pas pour faire de l'évangélisation. Et c'est ce que vont peut-être dire certains des orateurs de cette journée. Et ils auront bien raison. Sur votre contrat de travail, c'est pas écrit « S'il le souhaite, le salarié pourra passer 2 heures par jour sur son temps de travail » à défendre l'espérance qui est en lui auprès de ses collègues qui lui en demanderaient compte. Alors, sauf si votre travail, c'est aumônier d'entreprise. Mais bon, malheureusement, ça, je connais personne qui a ce job et je ne suis pas certain qu'il existe. En tout cas, pas en France. Sinon, il y a aussi qu'en entreprise, chacun est défini par un rôle, une fonction dans l'organisation. Et en fonction de la position que l'on occupe dans la hiérarchie, on se pose la question de quoi dire à qui ? On n'aura pas la même liberté avec un chef, un collaborateur, un client, un fournisseur. Un client vous écoutera peut-être simplement en espérant obtenir un contrat. Un collaborateur vous posera peut-être des questions pour avoir une promotion et se faire bien voir par son supérieur. Et si vous êtes consultant ou freelance, c'est encore moins évident parce que vous êtes en permanence en représentation quand vous êtes en contact avec des personnes dans le cadre de votre travail. Et indépendamment du fait d'être mal vu par ses chefs si on se met à parler de Jésus, on peut être parfois confronté à d'autres risques liés aux réactions des collègues, qui peuvent interférer dans le travail et dans les relations professionnelles. La foi chrétienne est exclusive. Jésus est le seul chemin. Et cela peut heurter un athéisme ou un laïcisme primaire, et ça peut faire des étincelles. Si un collègue se met en colère à cause de vos idées sur Jésus et décide de ne plus vous parler, c'est un peu problématique pour l'entreprise. Surtout si vous êtes dans la même équipe. Les résultats, c'est que souvent, en entreprise, la religion, c'est un tabou. Dont on a... Bref, c'est pas écrit, on n'a pas le droit d'en parler, mais il est admis que, ça c'est comme la politique, on l'évite. Pour maintenir la cohésion du groupe. Alors, c'est vrai que les enjeux sont différents de quand on est étudiant, parce que quand on étudie en France, ce que l'on dit de notre foi n'aura grosso modo pas d'impact sur notre diplôme. Alors qu'en entreprise, ce que l'on dit peut nuire à notre travail ou à notre carrière. Et si on est en période d'essai, il faut d'autant plus faire attention. Et pareil, si on est en recherche d'emploi, avec la question classique, si j'ai des responsabilités à l'église ou dans des associations chrétiennes, est-ce que je le mentionne sur mon CV ou pas? Mais bon, à un moment donné, chacun fait un choix, fait des choix, en fonction de ce qu'il ou elle estime le mieux, en fonction du contexte dans lequel il est. Et ce qui se passe après appartient au Seigneur dans sa souveraineté. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait quand même, c'est tous des paramètres qui font réfléchir. C'est vrai que de toute façon, en entreprise, on est souvent avec les gens pour du long terme. Et les relations à long terme sont ce qui porte le plus en termes de témoignage. Pas besoin de mener une action éclair, comme dans les campagnes d'évangélisation. Tôt ou tard, le sujet de la foi et de la religion sera mis sur le plateau, même si c'est pour l'évacuer en deux secondes. Que ce soit au restaurant d'entreprise le midi, ou le matin dans votre open space, quand vous faites tous ensemble les mots fléchés du 20 minutes, et qu'il y a la question « ville d'origine d'Abraham » en deux lettres. Si vous savez ce que c'est, oui.
Ah, tu connais ça, pourquoi ?
Ou alors le lundi matin, avec la question systématique de la première pause café. « T'as fait quoi ce week-end ?» Ça, c'est un boulevard pour parler de l'église. Et bon, voilà, les fans de foot, n'hésitent pas à parler de foot à la machine à café. Alors pourquoi ne pas parler de Jésus ? Bien entendu, avec discernement. Parce que Jésus a dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Alors Jésus ne parlait pas là du fait que certains collègues peuvent être de jeunes loups aux dents qui rayent le parquet de l'étage en dessous, mais il invite quand même au discernement et à la prudence. Et de toute façon, il y a un point supplémentaire qu'il faut mentionner et qui sert de transition avec ma deuxième partie. C'est que de toute façon, si notre travail est mal fait, nos paroles de témoignage ne seront pas recevables, ou en tout cas pas très bien perçues. L'an dernier, l'un de nos orateurs, Jacques-Émile Blocher, nous avait fait remarquer avec humour que si l'apôtre Paul voulait que son travail ne soit pas un frein à sa prédication, il fallait qu'il soit un bon faiseur de tente, pas trop cher, avec une bonne satisfaction client. Bon, l'idée que je veux souligner ici, c'est pas « témoigne de Jésus avec des mots si c'est nécessaire ». Parce que connaître Jésus, c'est pas naturel. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, comme disait l'apôtre Paul. Mais il est clair que notre comportement est primordial dans notre témoignage. Notre manière d'être nous donne l'autorisation de parler, ou pas. Mais indépendamment de ça, notre comportement est un témoignage de Jésus en soi. Et en entreprise, c'est très souvent le principal mode de témoignage. Agir en témoin. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre écrivait ceci. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le zèle au travail d'un Joseph ou d'un Daniel dans l'Ancien Testament a conquis les patrons tyranniques pour lesquels il travaillait. Et en fait, d'avoir un comportement qui soit bien perçu par les non-croyants au milieu desquels on vit, c'est vrai que bien les prophètes de l'Ancien Testament passaient leur temps à critiquer la corruption économique qui sévissait dans la société des royaumes d'Israël et de Juda, les pots de vin. Des pots de vin qui, peut-être parfois, dans la vie professionnelle, peuvent être tentants pour gagner un nouveau client, lui donner plein de cadeaux. Ça peut être tentant. Mais la bonne conduite dont parle Pierre, c'est pas simplement bien faire son travail, ne pas tricher sur les notes de frais, refuser de mentir à un client, ou ne pas commander des films porno en VOD à l'hôtel quand on est en déplacement et les facturer ensuite sur la note d'hôtel. Non, c'est pointer vers Jésus dans la manière dont on vit. Être comme un panneau indicateur. Être des imitateurs de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. L'apôtre Paul disait ceci dans sa lettre aux chrétiens de l'église de Colosse, au chapitre 3. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Mais plus loin, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Alors, par rapport aux choix comportementaux aux choix éthiques parfois, pas mal de questions à se poser. Un jeune banquier que je connais bien écrivait ceci, et peut-être que certains d'entre vous se retrouveront dans ce qu'il écrivait. L'éthique d'entreprise trace une frontière beaucoup plus floue entre ce qui est éthique et non éthique. Par exemple, violer la loi est dans toutes les entreprises considérées comme non éthique. Mais si tu le fais, pas trop, un peu, et dans l'intérêt de l'entreprise, on considérera que ton comportement est éthique et que tu ne fais que prendre un risque juridique maîtrisé. Un petit peu comme rouler 19 km/h au-dessus de la limite, on perd un point, 45 euros d'amende, autant dire pas grand-chose. On va dire 9 km/h au-dessus de la limite, parce que 19 c'est plus que ça. Le texte, ce témoignage date un petit peu. Dans le monde du travail, il continue, dans le monde du travail, la frontière bien mal semble floue, et la tentation est grande de se laisser happer par le groupe, par ses habitudes, ses automatismes, son absence de questionnement moral. Le tout à un degré plus fort que dans le monde extérieur. Au premier jour de travail, n'importe quel chrétien trouverait scandaleux de faire travailler jusqu'à 10h du soir une collaboratrice enceinte, juste parce qu'il faut rendre une présentation le lendemain à 8h au patron. De même, un regard nouveau trouverait anormal de demander par principe une augmentation ou de jalouser son collègue parce qu'il gagne 100 euros de plus par mois que soi. Pourtant, ces trois situations paraîtront souvent complètement normales au bout de quelques années d'ancienneté. Fin de citation. Il convient donc de s'interroger régulièrement sur nos motivations, sur le pourquoi de chacune de nos actions, chacune de nos réactions, et de se rappeler qu'agir en témoin, c'est vivre la grâce de Dieu au quotidien. Une grâce de Dieu qui nous aide à avancer dans un monde compliqué. Un monde où les choix sont rarement présentés en noir et blanc, mais plutôt en gris, dans un espèce d'entre-deux pas évident à gérer. L'Évangile nous rappelle que tout nous vient de Dieu, et cela peut nous servir de rempart. De rempart contre l'orgueil qui peut nous envahir si rapidement. Parce que c'est vrai que dans le royaume de Dieu, on va inverser les stéréotypes habituels, une PDG peut être la dernière, tandis que le secrétaire qu'elle regarde de haut au quotidien peut être le premier. Certains des premiers seront les derniers, certains des derniers seront les premiers. Une inversion des valeurs face à des entreprises qui, si souvent, exaltent le pouvoir et l'apparence. Nous rappeler que tout nous vient de Dieu peut nous aider aussi à fuir la jalousie qui vient si facilement abîmer le regard que l'on porte sur les autres. Comme l'Ecclésiaste le constatait déjà en son temps, toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Alors heureusement, bon, ça c'est un constat désabusé qui n'est pas systématique. Et l'Esprit de Jésus nous permet d'en être conscient, de nous repentir et d'être transformés. Il nous permet d'apprendre à vivre dans la reconnaissance et la joie. La reconnaissance et la joie. Alors c'est vrai qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et c'est vrai que vivre la joie, qui fait partie du fruit du Saint-Esprit, c'est pas toujours évident. Surtout quand les conditions de travail sont vraiment dures, avec peut-être du harcèlement ou des pressions à tout genre. Mais râler en permanence devant ses collègues, même si c'est le sport national dans bien des entreprises françaises, en tant que chrétien, ça pose problème. Non seulement pour l'impact que ça a sur les collègues, ça peut les déprimer, diminuer leur capacité à travailler, peut-être même leur envie de passer du temps avec nous pendant les pauses et autres. Du coup, on revient sur la première partie, parler en témoin. Ça peut diminuer notre capacité à parler en témoin. Mais si on ne vit pas la joie de Christ dans le lieu où on passe le plus de temps pendant la semaine, où va-t-on la vivre? Et franchement, un collègue qui ne râle pas, ça fait se poser des questions à certains. Et ça peut nous amener à aller plus loin dans la discussion. Après, il y a le comportement du chrétien face à l'argent aussi, qui peut intriguer et servir de témoignage. Le salaire de chaque employé est une juste récompense pour son travail, la Bible le dit abondamment, mais notre sécurité, c'est Dieu, pas notre fiche de paye. Et c'est profondément libératoire de se dire cela, et de le vivre. Par exemple, en cas d'échec au moment des promotions et des augmentations, le chrétien peut montrer par ses réactions que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et se réconforter, et peut-être réconforter les autres, par les paroles de Jésus qui disait « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » À chaque jour suffit sa peine. Alors je ne dis pas qu'il faut se laisser marcher sur les pieds et que quand on a droit à une augmentation, à une promotion, il ne faut pas se battre pour cela. Mais quand on les a pas, ben, notre comportement peut servir de témoignage. Ou alors, au moment de déclarer ou payer les impôts. Ça peut devenir facilement un sujet de conversation le midi, à ce moment-là de l'année. Enfin, de mon expérience, pendant une bonne période, on en parlait très souvent. Et pas de manière très positive. La plupart des gens se plaignent d'avoir trop d'impôts à payer. Le chrétien qui a bien compris la phrase de Jésus « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », et qui a médité sur le début de Romains 13, où Paul recommande de se soumettre aux autorités, ce chrétien pourra donner un autre son de cloche. Et en ne se joignant pas aux plaintes générales, montrer qu'il n'est pas un serviteur de l'argent, mais un serviteur de Christ. Et peut-être faire réfléchir les collègues sur leurs présupposés matérialistes, et leurs présupposés qui sont centrés sur leur bien-être et sur eux-mêmes. Et pourquoi pas aussi encourager à une générosité, en parlant des dons aux œuvres. Alors, il y a un moyen de défiscaliser, dons aux œuvres. Bon, ok, c'est pas à 100%, mais... Et du coup, on encourage la générosité, des choses positives chez les collègues. Donc bref, plein de pistes. Mais là, on entre, du coup, en encourageant les autres, à la générosité et autres, on entre dans le domaine des relations. Et donc, on va passer à relationner en témoin. Alors oui, je sais, c'est pas un mot français. J'aurais dû mettre interagir en témoin. Mais bon, si vous travaillez en entreprise, vous avez l'habitude. En entreprise, on est tout le temps en train d'inventer des nouveaux mots. Et celui-là me paraissait plus parlant. Donc bref. Le monde de l'entreprise, ça ne se réduit pas à des structures. Ça ne se réduit pas à du financier. Le monde de l'entreprise, c'est un monde de relations. Et ça tombe bien, parce que notre Dieu est un Dieu de relations. Un Dieu qui vit des relations en lui-même, au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il vit des relations avec les êtres humains. Et de manière très logique, la Bible parle beaucoup des relations, y compris des relations de travail. Alors même si, c'est vrai que dans le contexte d'il y a 2000 ou 3000 ans, c'était pas patron employé, mais plutôt maître esclave. Mais on peut faire des transpositions assez faciles. Dans la loi, dans la Torah, il y a de très nombreuses règles qui obligent les maîtres à bien traiter leurs esclaves, parce que ce sont des personnes et non pas des choses. C'est une invitation pour les patrons et les managers d'aujourd'hui à bien traiter leurs employés ou leurs collaborateurs, à leur donner un salaire juste et à ne pas les traiter comme du poisson pourri. Mais en plus, et on en reparlera plus dans la quatrième partie, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à regarder les autres au-delà de leurs fonctions. À toujours voir la créature de Dieu quand on observe la personne qui est en face de nous, même si cette personne est notre N+10 ou notre N-10, ou même si cette personne travaille mal ou a du mal à comprendre ce qu'on lui demande. Dieu est un Dieu de deuxième chance et de troisième chance, et plus, qui invite à regarder au-delà de nous-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas licencier quand c'est nécessaire, hein, mais Dieu est quand même un Dieu nous donne un exemple de deuxième chance, de troisième chance. Il nous invite à aller au-delà de nos préjugés. Il nous invite à tendre la main, comme lui nous a tendu la main par l'Évangile. Quant à CV égal, on embauche en fonction du nom de famille, de la ville d'origine ou de l'accent du candidat. Est-ce qu'on reflète l'amour de Dieu? Dans le livre du Deutéronome, on lit que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Et de Jésus le Messie, le prophète Ésaïe annonce qu'il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Un texte qui parle beaucoup des relations de travail dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 8. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux comme le feraient les êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Si on transpose ce texte dans les relations entre supérieurs hiérarchiques et collaborateurs, les choses sont claires. Respect mutuel, dans les deux sens, service mutuel, dans les deux sens. pas de management par l'intimidation, ou par la culpabilité, ou par la colère. Mais au contraire, savoir être reconnaissant envers les autres, les remercier, les encourager. Mais également être des instruments de paix. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Regardez, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » L'idée, ce n'est pas de se laisser écraser pour se laisser écraser, mais le témoin de Christ est un instrument de réconciliation qui refuse d'entrer dans le cercle vicieux des jeux de pouvoir et des coups de poignard dans le dos, tout en étant lucide sur ce qui se passe et en se laissant pas faire si c'est nécessaire. Ne pas rendre coup pour coup, mais vivre le pardon. Le pardon qui est le cœur de l'Évangile. Savoir demander pardon, accepter le pardon des autres. La marque, l'une des marques les plus ultimes de la vie chrétienne. C'est parfois compliqué, parce que nous sommes des êtres pécheurs. Quand l'ambition personnelle est la règle, et l'affrontement des égaux un mode de relation entre personnes, ce n'est pas toujours une évidence, et pas une chose facile. Et donc cela touche beaucoup les autres, si on vit la réconciliation et le pardon dans notre service, notre département, notre business unit. Ma conviction, c'est que c'est l'un des premiers moyens d'action du chrétien en entreprise. Parce que cela intrigue, cela fait bizarre. Et dans le même ordre d'idées, on peut faire facilement une différence pour Christ en lui ressemblant. En lui ressemblant par l'écoute et une certaine disponibilité aux autres. Bon, sans que ça nous empêche de travailler, bien entendu. Sauf si vous êtes psychologue en entreprise. C'est vrai que c'est particulièrement dans les discussions informelles, sur la famille ou le week-end, que l'on peut toucher nos collègues. La sagesse biblique que nous vivons, peut-être, ne laisse pas indifférent, surtout dans un monde qui manque de structure et de stabilité. Être un réconfort dans la détresse aussi. Lorsqu'un membre de la famille d'un collègue décède, la petite carte avec une parole biblique de réconfort adaptée fait toujours du bien. Ou lors d'autres épreuves de la vie, licenciement, divorce, nous pouvons toujours refléter celui qui est la résurrection et la vie. Mais relationner en témoin, ce n'est pas se limiter aux relations au sein de l'entreprise. C'est aussi tenir compte des besoins des autres communautés auxquelles on appartient. La famille, l'église, les amis, peut-être des engagements associatifs ou politiques. Et du coup, montrer l'exemple en termes d'équilibre et d'équilibre dans l'utilisation du temps. Pas passer 150 heures par semaine au travail, bon, je ne sais plus combien d'heures dans chaque semaine, mais un brillant ingénieur me disait l'autre jour qu'il avait refusé à plusieurs reprises des promotions dans sa précédente entreprise parce qu'il n'avait pas envie de passer tout son temps au bureau et qu'il voulait pouvoir avoir des responsabilités dans des cadres différents. Comme dans l'église, par exemple, où il est devenu l'un des principaux responsables de son église locale. Il faut beaucoup de courage pour assumer ce genre de choix, dans un monde professionnel où on nous répète que si on refuse les promotions, on ne peut que régresser. Et où quand on a un diplôme, on se sent obligé de le rentabiliser et de monter le plus haut possible. Ce qui est une excellente chose. C'est vrai qu'en même temps, du coup, chacun doit discerner quelles sont ses motivations profondes. Et ne pas tomber dans l'écueil qu'un de nos orateurs de l'année dernière dénonçait, et qui serait de rechercher une planque qui permette de faire attendre la fin de la semaine, dont le temps fort serait le dimanche. Être vraiment présent dans nos relations, au travail, comme en dehors du travail, et être un exemple en cela. Et cela peut être, du coup, le reflet de notre vision du monde de témoin. Pensez en témoin. Le chapitre 12 de la lettre aux chrétiens de la ville de Rome, écrite par l'apôtre Paul, commence ainsi. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde actuel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça commence par notre vision du monde. Comme le disait Daniel Wittmann, dans la conclusion de son livre « Le travail, malédiction aux valeurs chrétiennes », petite pub, il est en vente sur la table là-bas, fin de la pub. Il y a trois choses que nous chrétiens avons et que le monde n'a pas toujours simultanément. Ce sont des valeurs, du sens et une espérance. Car c'est l'évangile qui en constitue le lien. L'évangile au centre. Selon le pasteur new-yorkais Timothy Keller, dans son excellent ouvrage intitulé « Dieu dans mon travail », que je recommande abondamment, et qui est sorti il y a quelques mois seulement, il dit « Vivre la foi en entreprise ne consiste pas uniquement à être honnête et à ne pas tomber dans l'adultère avec un ou une collègue. C'est beaucoup plus que cela. C'est même plus que témoigner de l'évangile ou d'organiser une étude biblique au bureau. Il importe plutôt de réfléchir à ce qu'implique la vision évangélique du monde et le plan de Dieu pour le travail dans tous les domaines de votre vie professionnelle, ainsi que dans l'entreprise qui vous emploie et sur laquelle vous pouvez exercer une influence. » Et plus loin, il dit aussi « Puisque les chrétiens ne sont jamais aussi bons que leur juste conviction devrait les rendre, et que les non-chrétiens ne sont jamais aussi mauvais que leur croyance erronée devrait les rendre, nous apprécierons la culture humaine et ses expressions dans chaque secteur professionnel, mais en faisant preuve d'un sens critique, en comprenant l'Évangile et ce que dit l'Écriture. Le chrétien saura voir, plus que quiconque, la main de Dieu derrière le travail de ses collègues et de son prochain en général. » Si on voit notre travail comme participation à l'œuvre de Dieu et comme un service, service aux autres, service à la société, service pour Dieu, ça va changer la manière dont on travaille, ça va changer la manière dont on voit le travail des autres, ça va changer du coup peut-être notre comportement et notre témoignage va en être modifié. Vivre la vision chrétienne du monde, c'est être conscient du péché, lucide là-dessus, conscient des idoles, entre guillemets, qui sont présentes en entreprise, par exemple, prendre l'argent et le pouvoir comme des absolus, même si c'est un peu caricatural, c'est quand même souvent la réalité. Vivre la vision chrétienne du monde, c'est être conscient que le monde est dur, qu'on ne fait pas ce qu'on veut tous les jours, mais que ça ne nous empêche pas de vivre dans l'espérance et de diffuser cette espérance. L'idée, ce n'est pas de se demander comment Jésus aurait-il répondu à ce client, comment aurait-il découpé ce morceau de tissu, mais c'est remettre notre action et nos comportements et nos relations dans la perspective de la vie et de l'œuvre de Jésus, de ce Dieu tout-puissant qui s'est donné humblement pour nous. Vivre la vision chrétienne du monde, c'est voir en l'autre un prochain et non pas une fonction, et les aimer, à l'exemple de Christ. Quel que soit le métier que l'on exerce en entreprise, on a tendance à réduire les gens à leur fonction et à réagir à leur regard par rapport à la fonction qu'ils occupent, et pas forcément par rapport à la personne qu'ils sont. Votre chef, c'est votre prochain. Vos collaborateurs, ce sont vos prochains. Vos clients, ce sont vos prochains. Vos fournisseurs, ce sont vos prochains. Vos concurrents, dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, ce sont vos prochains. Les personnes qui viennent vous contrôler aussi, ce sont vos prochains. Vous savez, ceux qu'on aime bien ne pas trop aimer. Les inspecteurs des impôts, les commissaires aux comptes. Bon, je prêche pour mon ancienne paroisse, parce que j'ai travaillé comme commissaire aux comptes par le passé. Mais bref, tout ça, ce sont nos prochains. L'Évangile transforme progressivement notre manière de voir. Il nous permet de voir le monde et l'entreprise sous un nouvel angle et de penser en témoin. Pour conclure, parler en témoin, agir en témoin, relationner en témoin, penser en témoin. Être témoin, ce n'est pas des résultats. C'est pas, ouais, j'ai amené 35 personnes au Seigneur cette année, j'espère faire mieux l'année prochaine. Non, c'est une préoccupation, c'est d'abord une préoccupation personnelle. C'est un désir. Le témoin en entreprise, c'est celui qui est pleinement conscient d'être sauvé par grâce et qui vit cela dans ses pensées, ses actions, ses relations, qui est conscient de son péché et de ses limites et s'en remet à l'œuvre pleinement suffisante de Jésus, à sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Les résultats de notre témoignage, c'est Dieu qui les assure. C'est Dieu qui assure les résultats, c'est pas nous. C'est Dieu le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, quand il veut, comme il veut. Et bien souvent, même si c'est parfois frustrant, nous ne sommes qu'un maillon dans une longue chaîne de témoignages auprès de certaines personnes, dans leur milieu professionnel, dans leur entreprise. Parce que bon, on reste pas toute, pour la plupart des gens, pas toute sa vie dans son même entreprise. Il y a toujours des mutations dans tous les sens et bien des gens peuvent se retrouver confrontés à plusieurs chrétiens au cours de leur vie professionnelle. Et chacun de ces chrétiens peut les aider à avancer. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner des occasions de parler de lui, de savoir saisir ces occasions et de nous inspirer par son Saint-Esprit pour savoir quoi dire. Ça, c'est une prière qu'on peut faire le matin avant d'aller au boulot. Prier pour nos collègues. Et pourquoi pas aussi prier avec eux, si l'occasion se présente. Mais ça, c'est en général plutôt rare. Pourquoi pas aussi lire la Bible avec eux. Mais ça, c'est un aspect que j'ai laissé volontairement de côté parce qu'il sera traité dans le reste de la journée. Et même lorsque l'on quitte l'entreprise et qu'on est un petit peu, entre guillemets, libéré de tous les questionnements hiérarchiques dont je parlais tout à l'heure, rien n'empêche d'offrir une Bible en 90 minutes ou un évangile en remerciement aux personnes qui ont participé à notre cadeau de départ. L'évangile, c'est une personne qui se vit tous les jours. C'est un message qui détonne. Soyons prêts à être toujours plus étonnés par l'œuvre du Saint-Esprit, en nous, à travers nous, et parfois malgré nous. Nous avons une personne absolument sublime à annoncer au monde du travail. Et c'est une joie immense d'être ses serviteurs. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse dans le magnifique champ de mission qui est le vôtre. Amen.